Alors, nous sommes de retour avec la suite de notre série « Aime tes ennemis ». Et nous avons vu à travers le début de cette série-là, dans les quelques premiers messages, cet aspect-là où, en fait, n'importe qui peut devenir notre ennemi, où on peut être l'ennemi de n'importe qui, que ce soit quelqu'un peut-être éloigné, oui, peut-être qu'on côtoie, ça peut être quelqu'un qui, dans notre voisinage, un collègue de travail, un patron, un collègue d'études, un professeur, ça peut être... dans notre famille, nos parents, ça peut être notre conjoint, ça peut être nos enfants. Et rapidement, on peut passer de quelqu'un avec qui on partage énormément, peut-être même qu'on est amis depuis des années, à devenir, à être ennemi par des fois des petites choses qui peuvent basculer. On a vu, entre autres, la question de comment on traite les autres, comment on parle aux autres, les offenses, comment on traite les offenses dans nos vies. On a parlé du jugement et aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, mais juste avant, justement, on va lire dans Matthieu 5, les versets 43 à 48, le texte de base qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin d'être les fils de votre Père céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aime tes ennemis. Et comme on vient de le mentionner, rapidement, on peut passer de ami à ennemi dans nos vies. Et aujourd'hui, on va regarder à un aspect qui, justement, d'une fraction de seconde ou à partir de certains événements ou un contexte, on peut rapidement passer d'ennemi à ennemi avec la jalousie. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, 20, va dire ceci, « J'ai peur », s'adresse aux Corinthiens, il va dire, « J'ai peur en effet qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. » Alors, l'apôtre Paul a déjà fait un voyage à Corinthe. Il a écrit sa première lettre aux Corinthiens et ensuite de ça, il écrit sa deuxième lettre. Et ici, dans sa deuxième lettre, mais en fait, c'est un constat parce que lorsqu'on lit la première lettre aux Corinthiens, on voit cette dimension-là où ça ne fonctionnait pas comme ça aurait dû fonctionner dans l'Église. Et l'apôtre Paul va devoir s'adresser à eux et corriger les éléments. Et là, juste avant de revenir une deuxième fois, va écrire cette lettre-là. Il va dire, j'ai peur de ce que je vais trouver. Et ce que je vais trouver, c'est peut-être de la jalousie et des querelles. Ici, c'est pas, on n'est pas dans un marché aux puces. On n'est pas dans au Boxing Day où tout le monde se chicane pour avoir un truc à pas cher. On n'est pas en cours. On est à l'église. Et c'est ce qui lui fait peur. Et justement, pourquoi? Parce que si on revient dans 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 4, l'apôtre Paul va dire, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne le pouviez pas le supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je m'attache à Paul et un autre, moi à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature? » C'est fou. Ici, l'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. Vous pensez être conduit par l'Esprit. Vous avez des dons, vous faites un paquet d'affaires, vous faites des cultes, des réunions d'église qui sont peut-être pleines de vie, pleines de... Mais vous êtes dirigé par votre nature propre. Et c'est étonnant des fois comment est-ce que lorsqu'on regarde à la foi et lorsqu'on regarde à l'Église, souvent on va mettre des caractéristiques à ce qui est spirituel selon nos convictions, selon notre regard, selon nos goûts personnels. Vous savez, il y a plusieurs années, la question d'avoir la guitare électrique, un drum dans l'église, c'était pratiquement démoniaque. C'est comme « Ah non, ça peut pas, c'est pas des instruments de Dieu, tout ça ». Mais est-ce que ça l'était, est-ce que ça l'était pas? Et aujourd'hui, on peut louer Dieu avec tous ces instruments-là, avec la façon qu'une église est construite, avec l'architecture, avec ce qui se trouve à l'intérieur, avec les ornements. Ah, ça, Dieu aime ça, Dieu aime pas ça. Plusieurs éléments, c'est telle version de Bible que Dieu aime, c'est tel élément. Et la durée de la louange, les chants qu'on prend, combien de temps le prédicateur va prêcher, est-ce qu'il est très charismatique ou non, et c'est ça qui va déterminer ce qui est spirituel ou non selon notre goût à nous. Mais là, c'est assez déterminant que l'apôtre Paul va ramener ça à notre nature propre. Il va dire, vous pouvez avoir tous ces éléments-là, qui sont bien ou mal, peu importe, comme vous le jugez. Mais en fait, ce qui détermine si vous êtes spirituel ou non, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous. Oh! Et toute cette question de jalousie, où justement la jalousie fait passer d'ami à ennemi. Que ce soit dans notre propre maison, notre propre foyer, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre voisinage, que ce soit dans la société en général, ou que ce soit dans l'Église. L'apôtre Paul va dire, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne démontre pas que l'Esprit de Dieu est en vous. Wow! Parce que la jalousie nous conduit à la comparaison qui révèle une insécurité par rapport à notre identité et notre peur de manquer quelque chose. Je le relis. La jalousie nous conduit à la comparaison qui révèle une insécurité par rapport à notre identité et notre peur de manquer quelque chose. Dans Jacques 3, les versets 14 à 16, c'est exactement ça nous parle, ça dit, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine. Le mot après, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. » Jean va aller dans le même sens que Paul va dire. Et bien, même aller plus loin, c'est pas juste quelque chose qui vous êtes dirigé par votre nature propre, par vos désirs, votre instinct primaire. Non, il dit en plus, c'est quelque chose de carrément démoniaque. Wow! Et on va le voir parce que la jalousie va révéler, justement, on a parlé dans les dernières semaines, c'est difficile de déterminer les motifs du cœur d'une personne. Mais la jalousie va déterminer, va révéler cet élément-là dans notre vie. Dans Genèse 4, les versets 3 à 10, ça dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie sur la terre jusqu'à moi. » Ici, les deux apportent une offrande. On voit que probablement que, justement, Caïn, c'était juste une habitude. Je dois le faire. Vous savez, il y a plein de choses qu'on fait dans la vie comme ça qu'on ne le fait pas par amour, on ne le fait pas par service, on le fait parce qu'on doit le faire. Probablement que le matin, quand vous vous levez, la question de « est-ce que je fais le lit ou je ne le fais pas? » C'est peut-être pas une grande question existentielle, mais en fait, ça peut devenir une question de « je suis là pour... » aider pour servir ou je le fais juste parce qu'il faut que je le fasse. La vaisselle. Il y a un paquet d'affaires. L'aspirateur, la tondeuse, whatever. Dans notre vie, il y a un paquet d'affaires qu'on fait pour faire les choses. Et quand on arrive avec Dieu, c'est la même chose. Des fois, on le fait parce qu'on sait ce qui est bien de faire en tant que croyant, mais on ne le fait pas nécessairement par amour ou par passion pour Dieu. Et ici, quand il se retrouve dans cette situation-là et Abel apporte avec générosité à Dieu, « Voici mon offrande. » Mais ici, ça révèle le caractère de Caïn de dire, « Hey, de jalouser son frère. » Mais cet élément-là vient tellement le chercher, c'est pas quelque chose de nouveau, qu'il y en a assez, il va jusqu'à tuer son frère. Et c'est là où la jalousie, si elle n'est pas traitée, peut devenir un mot, peut devenir quelque chose de démoniaque dans nos vies, où on devient, où les autres deviennent nos ennemis, pas nécessairement à cause de ce qu'ils ont fait, mais les autres deviennent nos ennemis à cause de notre envie. C'est ça qui se passe. Et ici, on le voit, Caïn était détaché de son frère. C'est son frère de sang. Il va dire à Dieu, ben, pire, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Un peu, je m'en fous, j'en ai rien à cirer de lui. Et Dieu dit, hey, wow, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ça veut dire que ça date de longtemps où, justement, Caïn fonctionnait pour sa propre vie. Et Caïn jalousait son frère depuis sûrement un certain temps. Craig Rochelle a dit, « Ce qui consomme ton esprit contrôle ta vie. » Et quand on parle de jalousie, et quand on voit c'est que l'apôtre Paul nous parle de cet élément-là, de, que c'est de notre nature propre. La jalousie ne vient pas du caractère de Dieu, mais et que Jacques va nous dire justement que ça vient tellement nous prendre que ça cause des problèmes, ça cause des rivalités, que la jalousie est démoniaque, c'est plus que même notre nature propre. C'est quelque chose qui vient qu'à nous contrôler. Si on ne contrôle pas notre jalousie, la jalousie va nous contrôler. Et ce qui va consumer mon esprit va contrôler ma vie. Et là, ça va devenir malsain pour moi. Mais la jalousie, c'est malsain pour tout le monde. Ma vie est consumée par ça et la vie des autres aussi en est atteinte. Dans Jacques 4, les versets 1 à 3, ça dit « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? » N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Vous désirez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne bandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ici, l'apôtre Jacques va nous mentionner justement que cette idée, il compare, il dit, vous êtes meurtrier et jaloux. Il dit, vous faites du tort aux autres. Et puis là, vous allez devant Dieu, puis vous vous plaignez à Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, vous demandez mal à Dieu. Parce que c'est ce qui consomme votre être, que vous priez pour avoir ce que l'autre, là, vous priez pour vous envier les désirs des autres, puis vous dites, voici mon désir. Et ça crée des problèmes, ça crée des conflits, parce qu'on veut être des fois à la place de quelqu'un d'autre, on voudrait avoir la vie de quelqu'un d'autre. William Penn a dit, la jalousie est gênante pour les autres, mais un tourment pour soi. C'est un tourment pour soi. Parce que quand je suis jaloux, je ne peux pas être pleinement heureux. Quand je suis jaloux, c'est quelque chose qui vient, qui peut m'obséder. Quand je suis jaloux, je traiterai pas bien les autres autour de moi. Quand je suis jaloux, je vais me créer plus d'ennemis que d'amis. Je connais pas beaucoup de monde qui veulent, OK, cette personne-là est tellement jaloux, j'aimerais lui faire un grand câlin. Pas tout de suite, on n'a pas tout le temps, pas le droit maintenant de faire des câlins, mais éventuellement avoir le droit. Mais je pense pas qu'on va vers ces gens-là. C'est ce qu'on veut dans notre vie. Et malheureusement, il y a quelque part dans notre vie, il y a cet élément-là où la jalousie veut prendre la place dans chacune de nos vies. C'est quelque chose qui peut, à différents niveaux, venir prendre une place qu'elle ne devrait pas avoir dans nos vies. Et malheureusement, pour certains d'entre nous, vu qu'on traite pas ce sujet-là, on ne l'adresse pas dans nos vies, bien, il nous ronge. Et justement, et quand il nous ronge, qu'est-ce que ça fait? Ça devient un tourment pour nous. Mais quand ça devient un tourment, quand ça contrôle ma vie, comme Craig Rochelle dit, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça devient gênant pour les autres parce que c'est évident pour les autres que notre jalousie est présente. Et on ne peut pas à être pleinement accueillant, pleinement rempli d'amour et de grâce lorsqu'on est rempli de jalousie. Dans Romains 13, l'apôtre Paul va nous dire justement, « Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Deux choses importantes ici. On est dans cette dynamique-là où comment est-ce que je peux me défaire de la jalousie? Mais juste avant, je veux attirer votre attention que on a vu que l'apôtre Paul dit si la jalousie est présente dans ta vie, c'est que tu es dirigé pas par l'Esprit de Dieu, tu es dirigé par ta nature propre. Jean va nous dire que c'est même que ça apporte juste des choses mauvaises et que c'est démoniaque au final. Mais ici, l'apôtre Paul compare, mais ça dans la même lignée. Que, c'est-à-dire les disputes, l'immoralité, la débauche, la jalousie, à la même égalité. Et des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on évalue des éléments spirituels dans la vie des autres ou dans de ce que devrait être l'Église, la façon dont on fait les réunions, de ça, puis de dire, hey, ça c'est quelqu'un de spirituel. Mais des fois, on ne voit pas cet élément-là qui est beaucoup plus interne où on ne traite pas parce que c'est dans la vie banale. Pour nous, c'est banal, mais en fait, ici, la Bible traite ça comme quelque chose de essentiel et vital à notre vie spirituelle, bien plus que d'autres ornements, bien plus que bien d'autres actions qu'on peut faire à l'extérieur de nos vies. Mais ici, il dit, préoccupe-toi pas justement de ta nature propre. Alimente-la pas, il dit. Satisfais pas ces convoitises. Alimente pas cette jalousie-là. Alors, qu'est-ce que tu donnes à la jalousie pour l'alimenter? Il va dire au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, ça se dit que Jésus s'est dépouillé. Alors, de se revêtir du Seigneur Jésus, c'est de se dépouiller de notre nature propre, de se dépouiller de ça, de prendre la jalousie et de dire, j'en veux pas dans ma vie, je la mets de côté, il faut que je mette un trait là-dessus. Je ne peux pas l'alimenter, je ne peux pas lui donner ce qu'elle veut, la jalousie. Jésus a dit, il s'est humilié lui-même et s'est déchargé de tout ce qui était la gloire et tout ce qui entourait ça. Et ici, l'apôtre Paul dit, revêt-toi de cet esprit-là, l'esprit de Jésus. Galates 6, les versets 4 à 5, l'apôtre Paul va donner un autre conseil. Il va dire que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Et souvent, la jalousie, qu'est-ce que ça fait? C'est que on regarde qu'est-ce que quelqu'un a de plus que moi, que j'aimerais avoir une position, que ce soit des avoirs, que, n'importe quoi, du fame, une carrière que j'ai pas. Et souvent, c'est ça, c'est se comparer aux autres. Ça révèle mon insécurité. Mais ici, ça dit, occupe-toi pas des autres. Occupe-toi de ta vie et compare-toi pas aux autres. Mais au contraire, parce que chacun va avoir à rendre compte pour ce que Dieu donne, ce que tu as dans ton assiette aujourd'hui, ce qui est devant toi, tes responsabilités à toi. Et lorsque tu te préoccupes de vivre cette vie-là par rapport à ce que Dieu t'a donné, mais ton regard vers les autres ne se tournera pas sur « Ah, j'aimerais avoir, j'aimerais posséder, j'aimerais avoir ce que l'autre a. » Theodore Roosevelt a dit que la comparaison est le voleur de la joie. Et c'est tellement vrai. Parce que quand je me compare, j'obtiendrai pas plus demain matin ce que j'ai ou ce que j'ai de moins, ce que j'ai de plus ou ce que j'ai de moins de l'autre personne. Mais ça va laisser juste un plus grand vide en moi. Et ça va laisser plus de place à la jalousie dans ma vie. Dans Nombre 12, les versets 1 à 3, et on est ici, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme Cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme Cushite. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » L'Éternel entendit, « Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. » Ici, on a les associés, on a le bras droit de Moïse, Aaron, puis on a Myriam, puis là, ils sont là autour de... Et ils deviennent jaloux de Moïse, au point de dire, « Hey! » Et c'est là où la jalousie arrive au point de dire, « Ben, non seulement je veux ce que tu as, mais je peux faire mieux que toi. Je peux avoir plus que toi. » Cet élément-là de jalousie nous pousse à la comparaison et va nous pousser à la compétition envers les autres. Et ici, Moïse et Aaron font comme, « Hey, Dieu va nous parler à nous autres aussi. Il n'est pas mieux que nous. » Mais ici, ils ne réalisent pas le rôle que Dieu leur a donné et le rôle que Moïse leur a donné. Et ici, on a une révélation sur pourquoi que c'est Moïse qui a été choisi. Ça nous dit que Moïse était plus humble que n'importe quel homme sur la surface de la terre. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Et le rôle d'Aaron et le rôle de Myriam étaient différents de celui de Moïse. Mais des fois, c'est ce qu'on veut dans notre vie. Obtenir ce que l'autre a, obtenir le rôle que quelqu'un a. Et que ce soit, et des fois, on jalouse des collègues de travail. On va jalouser notre patron, on va jalouser la voisine d'en face, d'à côté. Pour ce qu'ils ont. On va jalouser les gens sur Facebook, sur Instagram, sur ce qu'ils prétendent avoir de mieux que moi. Et on va jalouser dans l'Église. pour jalouser la position de un, de l'autre? Est-ce que lui a plus de privilèges que lui? Si et ça, est-ce qu'on dirait que lui il est plus en contact? Est-ce que lui a telle affaire que plus que moi? Et des fois, on réalise pas que c'est pas du tout ça. Et des fois, même, on jalouse les gens dans notre propre maison. Mais ici, je dis, ça n'a pas lieu d'être. La jalousie est une forme de haine bâtie sur l'insécurité. D'être insécure sur ce que Dieu m'a donné, sur ce que les dons, les capacités, sur ce que Dieu m'offre. Je suis pas sécure par rapport à ça. Et les autres semblent tellement mieux. Les autres, j'aimerais tellement avoir cette position-là, ce talent-là. Mais le point n'est pas là. Dans Jacques 1, les versets 16 à 17, je termine bientôt. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut et ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre d'une variation. » Ici, Jacques nous dit, dans chacune de nos vies, Dieu nous donne des bienfaits et des dons parfaits pour nous. Et c'est à ce à quoi on devrait mettre notre attention. D'être reconnaissant envers Dieu. La meilleure arme pour la jalousie, c'est la reconnaissance. Et de reconnaître ce que Dieu fait dans ma vie et de m'appliquer à le développer. Vous savez qu'est-ce qui est une autre bonne arme à la jalousie? Regardez bien. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 2-3. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. L'apôtre Paul ici, avec d'autres de ses collègues, vont écrire à l'église de Thessalonique en disant quoi? On est reconnaissant pour vous. Au lieu d'être jaloux de votre foi, au lieu d'être jaloux de de votre travail, de votre amour et de ce que vous faites qui semble être mieux, l'apôtre Paul dit, je suis reconnaissant pour vous. Et il va même poursuivre dans 1 Thessaloniciens 2, les versets de 19 à 20, dans cette lignée-là, il va dire, en effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est fou. L'apôtre Paul va dire, notre joie et notre couronne de gloire, c'est vous. C'est pas ce que j'ai accompli, c'est pas ce que moi je fais, c'est pas mes compétences, mes capacités, mais c'est vous. Je vous vois progresser. Ce que j'ai investi dans votre vie, peut-être que vous le faites mieux que ce que je le fais déjà. Vous êtes plus loin, vous avez développé plus votre amour, votre foi, et ainsi de suite. Mais il dit, vous êtes notre gloire, notre joie. Je suis reconnaissant pour vous. Et un des remèdes à la jalousie, c'est, au lieu d'envier les autres, c'est d'être reconnaissant pour les autres. Et non seulement ça, mais c'est d'élever les autres. De les prendre et de dire, waouh, les encourager et d'être capable de dire, waouh, voici ce qu'un tel fait bien, voici ce qu'un autre fait bien. Andy Stanley, en terminant, dit, votre plus grande contribution ne serait peut-être pas quelque chose que vous faites, mais quelqu'un que vous élevez. Et je crois que c'est ça. Et quand on arrive à cette dynamique de jalousie-là, parce que dans nos vies, il y a ce bain-là, peut-être certains plus que d'autres, mais on a besoin de le combattre. En arrêtant de nous comparer, en nous revêtant, de se revêtir du Seigneur Jésus et de juste pas nourrir notre nature propre. Et en étant capable de juste regarder les autres et de les encourager, de prendre des personnes et au lieu de les jalouser, de les élever. Et de dire, waouh, voici ce que cette personne fait bien. Et d'être capable d'encourager, de supporter et d'investir dans la vie des autres pour dire, comme l'apôtre Paul à la fin, vous êtes, tu es ma gloire et ma joie. Waouh, la semaine prochaine, on va parler de comment gérer nos conflits. On va parler d'orgueil, de colère, de querelle et de comment gérer nos conflits parce que justement, dans cette idée-là d'aimer nos ennemis, il faut être capable d'arriver à un moment où comment est-ce que je vais être capable d'adresser les choses? Comment est-ce que je vais être capable de m'asseoir, de discuter et de régler les choses dans ma vie? Donc, soyez là dimanche prochain pour la suite de notre série « Aime tes ennemis ». D'ici là, cette semaine, on va poursuivre nos méditations sur la jalousie de lundi à jeudi. Et je vous invite d'être là. Et on va terminer avec un mot de prière ce matin. Seigneur, on est tous à quelque part jaloux, on est tous à quelque part de l'envie, on est tous à quelque part des fois des désirs mal placés, des mauvaises motivations. Des fois, on a peut-être envie de prendre la place de quelqu'un d'autre même. Mais pour ça, on a besoin de se revêtir de toi. Et on a besoin, Seigneur, d'arrêter de nourrir notre propre nature pour marcher selon notre nature. Mais on veut marcher par ton esprit, Seigneur, et savoir que toi, Seigneur, tu t'es dépouillé. Seigneur, tu étais comme Moïse, Seigneur, tu étais humble. Et t'as pas regardé aux autres à te comparer, mais tu as juste vécu la vie que tu devais vivre ici. Et Seigneur, aide-nous à se concentrer sur les bienfaits, les bontés que tu nous donnes. Aide-nous à développer une attitude de reconnaissance. Aide-nous, Seigneur, également à ce que les autres soient notre gloire et notre joie, qu'on puisse encourager, supporter, édifier, Seigneur, investir et élever des gens autour de nous. Autant dans notre famille, autant, Seigneur, dans notre milieu de travail, autant dans l'Église, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve demain pour les méditations. Et dans quelques instants, c'est Moz Junior pour les enfants. Je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Si vous êtes nouveau parmi nous, vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.